Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles de la Posta et avec Stéphane Vrignot, on va revenir sur l'actualité de la F1. Salut Stéphane, alors remis de cette fiesta orange de Zandvoort?
Ouais, c'était très sympa Gilles. On a fait ressurgir un circuit qui n'avait pas été utilisé pour la Formule 1 depuis 36 ans et la conclusion, c'est que c'est redevenu un classique.
Exactement, en une édition, tu as parfaitement résumé. Au menu du jour, Verstappen, l'as des as, attendu, porté au nu. Le Batave a régalé ses compatriotes tout le week-end, le Néerlandais qui s'est imposé et qui a même repris la première place du championnat. Mercedes, les morfalous, l'équipe allemande a passé un week-end en terre hostile, problème moteur, problème de discipline, mais finalement, un bilan pas si catastrophique que ça pour les hommes de Toto Wolff. Et puis le troisième sujet, c'est évidemment Raikkonen. Le marginal prend sa retraite à 41 ans. Le Finlandais, absent le week-end dernier pour cause de Covid, ne sera pas au départ de la saison 2022. Et vous l'aurez noté, un clin d'œil à Jean-Paul Belmondo parce que nous avons tous grandi avec Bebel à l'écran et que la disparition de cet acteur ne nous laisse pas indifférents. On en profite aussi pour envoyer un message de soutien à Paul Belmondo, son fils, qui vient régulièrement partager ses analyses sur l'antenne d'Eurosport. Bon courage à ses proches. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes des Fous du Volant directement sur votre smartphone. On commence donc les Fous du Volant aujourd'hui par Max Verstappen, l'as des as, je le disais, hein. Attendu, porté au nu par son public et par les organisateurs de ce revenant Grand Prix des Pays-Bas. Le Batave a régalé tout au long du week-end. Il n'a pas commis une seule erreur. Il est allé chercher la pole position samedi, la victoire, sans trembler. Juste une petite question à un moment à la radio, à la destination de son stand sur le choix des pneus durs pour le deuxième et dernier relais. Mais c'est tout, hein. Sinon ça a été vraiment impressionnant. Le week-end de Max Verstappen, qui récupère donc avec cette 17e victoire dans sa carrière la première place du championnat qu'il avait perdue à Silverstone. 3 petits points d'avance. C'est peu, mais c'est symbolique. C'est la 7e victoire de Max Verstappen cette saison. Et Stéphane, en préparant cette émission, tu as évoqué une nouvelle dimension pour Max Verstappen. C'est bien l'impression qu'on avait ce week-end.
Oui, c'est une évidence. Il supporte de mieux en mieux la pression. C'est ce qu'on a dit aussi, noté chez Red Bull. Il faut passer plusieurs caps quand même pour être un champion du monde. Il y a des temps de passage qui sont importants. Ce rendez-vous de Zandvoort, c'était son Grand Prix national. Il l'attendait depuis plus d'un an. Il ne l'a pas raté. Il a supporté toute cette ferveur populaire, même s'il a dit « ce Grand Prix, pour moi, je l'aborde comme tous les autres ». Mais il a été à la hauteur de la situation. Il n'a pas fait une faute. Je trouve qu'il a changé de dimension et il prend un petit peu plus le costume de champion du monde pour moi. Il a 7 pole positions et 7 victoires à son actif cette saison en 13 Grands Prix. Hein. Donc, c'est plus de la moitié quand même. Il faut bien reconnaître ça. Il prive régulièrement Hamilton de la pole position. Et là, maintenant, on sent qu'il n'y a quasiment plus rien qui peut l'arrêter. Et tu le disais d'ailleurs, il a remporté sa 17e victoire. Il n'est toujours pas champion du monde. C'est un record actuel. C'est presque une anomalie quand on voit en fait la liste des pilotes qui le suivent dans ce classement particulier.
Exactement, on va le voir pour ceux qui peuvent nous suivre sur ce sujet. 17 victoires en F1, c'est le record du plus grand nombre de succès sans avoir décroché un titre mondial. Il précède Stirling Moss, le roi sans couronne, qui a à son actif 16 victoires mais qui n'a donc jamais été titré. Ensuite, David Coulthard avec 13 victoires. Carlos Reutemann, avec 12 succès. Et puis les deux Brésiliens, Massa, Barrichello, avec 11 victoires. J'ai envie de te dire, oui, mais Verstappen ne restera pas dans cette liste. Et la première place, elle va revenir d'ici quelques mois ou quelques années à Stirling Moss, parce qu'on ne voit pas Max Verstappen terminer sa carrière sans être champion du monde. Tu es d'accord?
Absolument. Alors, dans cette liste, en plus, on pourrait dire que Mansell, à un moment, a eu à son compteur 29 victoires sans être champion du monde. Donc, Verstappen va encore faire grossir, je pense, ce chiffre avant d'être champion du monde. C'est ce qu'on lui souhaite cette année ou à l'avenir. Mais pour moi, je te disais, oui, qu'il a changé de dimension par rapport à toute cette ferveur populaire. Il avait fait venir, en fait, quasiment ses 70 000 personne, en tous les cas, c'est ce qu'il fait sur tous les circuits, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met en scène, qui organise sa popularité, et ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Ce qu'on a vu le week-end dernier, une marée orange, on n'a jamais vu ça sur aucun circuit. Et en termes de ferveur, c'était l'équivalent de Senna à Sao Paulo, mais ses supporters ne sortaient pas. Après, on ne les voyait pas moins massivement sur d'autres circuits européens ou de par le monde. Il y a le phénomène Lewis Hamilton aussi à Silverstone. En voilà. Il y a les tifosi en Italie, alors, qui s'habillent quand même assez en rouge, mais on ne les voit pas autant que l'orange de ce week-end. Et ils sont un petit peu plus dispersés sur les autres circuits, mais ils sont très présents sur tous les circuits du monde entier, les tifosi. Mais Verstappen, quand je te dis qu'il organise sa popularité, c'est qu'il a monté une agence de voyage spécialement pour proposer des packs de déplacement à ses fans. Et là, pour l'instant, ben, ils s'assurent en fait leur présence sur 5 circuits précis dans la saison. J'ai noté, donc en plus de Zandvoort, il y a Spielberg, donc, qui est donné 2 fois par saison. Il y a Spa, il y a le Hungaroring. Donc, si tu veux, il a quand même un coup d'avance là-dessus. Et puis, il a travaillé cette ferveur. Tu as vu aussi, il avait le drapeau hollandais sur le podium.
Je suis d'accord. Tu sais ce que ça me rappelle? Alors, ce n'est pas en Formule 1, mais pour l'avoir vu de mes propres yeux et l'avoir vécu sur le circuit, la vague jaune de Valentino Rossi, hein, quand tu vas à Saint-Marin, tu es chez Valentino Rossi sur le circuit. Moi, j'ai vu des Grands Prix où on l'a fait venir après le podium parce que le public ne voulait pas partir tant qu'il n'avait pas vu Rossi. Sur le podium, même s'il n'était pas dans les 3 premiers, bah, le public voilà, campait et attendait Valentino. Donc ça m'a fait un petit peu penser à ça, cette ferveur, cette véritable marée, là, en plus avec les fumigènes, c'était assez impressionnant. Et puis surtout, Stéphane, s'imposer devant son public, quand on ramène le public, mais je dirais même qu'au-delà de ça, il a même ramené la Formule 1 aux Pays-Bas, Max Verstappen, bah, ce n'est pas simple de s'imposer devant son public. Et c'est plutôt l'apanage des grands. Hein. Tu as mis de côté quelques chiffres qui prouvent là aussi que Verstappen, c'est la catégorie au-dessus.
Oui, bah, il arrive, il gagne. Alors, ça paraît une évidence, ça ne l'est pas du tout. Hamilton a gagné 8 fois son Grand Prix national à Silverstone. Ça, c'est le record toute catégorie absolue devant Alain Prost, ses victoires au Grand Prix de France. Mais quand on regarde le détail des victoires des autres pilotes en activité, on voit qu'Alonso n'a gagné que 2 fois en Espagne, plus une 3e fois le Grand Prix d'Europe en 2012 à Valence. Tu me le faisais remarquer, Gilles, quand on préparait cette stat. Et puis Vettel n'a gagné qu'une fois le Grand Prix d'Allemagne, malgré toutes ces années Red Bull, malgré toutes ces années Ferrari. Et il y en a 2 qui attendent encore au portillon, c'est Ricciardo. Mais là, aucun Australien n'a remporté, ni même monté sur le podium en Australie. Et puis Charles Leclerc qui attend aussi de remporter son Grand Prix de Monaco. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est aisé. Puis on se souvient aussi, Senna n'a gagné que 2 fois finalement au Brésil. Pas vraiment prophète en son pays, Lauda une seule fois en Autriche. Donc c'est quand même quelque chose de difficile, c'est un tour de force qui a réalisé Max Verstappen ce week-end.
Ouais, exactement. Hein, Puis il y avait en plus la manière, une sorte de sérénité. C'est laissé un petit peu aller après, au moment du protocole. On a senti qu'il relâchait. Mais alors, une maturité, une force, une solidité, honnêtement, voilà, il faudra retenir ça parce qu'on a déjà parlé, hein, depuis le début de la saison, qu'il y avait une sorte d'acte de naissance d'un pilote qui désormais pouvait jouer la couronne mondiale parce que la voiture lui permettait. Jusque-là, il jouait des coups quand la Red Bull était capable de concurrencer la Mercedes. On avait déjà noté ce cap de franchi depuis le début de la saison où cette fois, c'était la couronne qu'il visait. Bon, là, on a le sentiment que c'est un Verstappen taille patron, à condition que ben, la technique ne vienne pas lui poser problème, hein, parce que depuis cet abandon sur l'accrochage avec Lewis Hamilton, il y a une menace qui plane sur Max Verstappen, c'est l'engagement. Vous savez, vous qui suivez la Formule 1, que les pilotes doivent faire toute la saison avec trois ensembles motopropulseurs et qu'on utilise déjà le troisième pour Max Verstappen. Et donc, si on en engage un quatrième, eh bien, il faut partir dernier sur la grille de départ. Il y a cette menace hein, vraiment pour Verstappen, Stéphane.
Oui, en fait, il y a une très forte probabilité que Honda monte le quatrième moteur, donc hors quota réglementaire, pour Verstappen à Monza, ce qui signifierait en fait une rafale de pénalité qui l'obligerait à partir dernier sur la grille. Et même en cas de nouvel élément sur son moteur qui ne correspondrait pas à la définition de 2021, ce qui était installé jusqu'à présent, il serait même obligé de partir de la pit lane, comme ça a été le cas pour Pérez. Parce que on en vient au moteur de Silverstone qui a été perdu dans le crash avec Hamilton. Et ce moteur ne reprendra pas du service. Le moteur numéro 3 a été monté sur la voiture de Verstappen le dimanche du Grand Prix de Hongrie parce qu'il ne voulait pas prendre de risque chez Honda. Et il n'est pas concevable en fait, qu'il termine la saison avec ce moteur-là. Et encore plus, pas concevable de remettre en service le moteur numéro 1 en course. Et le boss de Honda l'avait bien précisé en Belgique, il avait dit on attend de connaître la fin du calendrier de la saison pour savoir quand est-ce qu'on prendra cette pénalité. Eh bien, je pense que ça sera à Monza. Alors, en réfléchissant à ça et en regardant le programme de Monza, je me dis, mais tiens, il n'y a pas quelque chose là à faire. Mais en fait, je pense que non. Je m'explique, la qualification, c'est le vendredi. Donc, Honda, théoriquement, sera obligé de monter ce quatrième moteur dès le vendredi. Et la course sprint, c'est le samedi. Alors, est-ce que Verstappen prendrait ses pénalités pour la course sprint, ce qui lui ferait 18 tours supplémentaires à faire pour remonter, ou est-ce qu'il les prendra le dimanche? Je pense que ça sera le dimanche parce que c'est la définition même de la grille de départ. Voilà, donc je pense qu'il n'y aura pas d'entourloupe à ce niveau-là, au niveau réglementaire, mais Monza, ça reste quand même le meilleur endroit pour prendre des pénalités. C'est ce qu'a fait d'ailleurs parfois par le passé Honda, précisément à Monza, du temps de McLaren, quand il fallait mettre en place un nouveau groupe moto, un groupe propulseur complet, il le faisait en Italie.
Voilà, parce que c'est le circuit qui favorise le plus les déplacements. Après, il y aura Sochi, Istanbul, Austin aux États-Unis, Mexico, Sao Paulo, Jeddah en Arabie Saoudite, et on terminera à Yas Marina à Abu Dhabi. Donc, sur le papier, c'est vrai que c'est le circuit qui pourrait le plus. En tout cas le moins défavorisé, celui qui prend ce pari. Moi, je me demande si on ne va quand même pas attendre, hein, parce que ça fait deux victoires consécutives hein, maintenant pour Max Verstappen. Il y a eu Spa, bon, dans les conditions qu'on connaît, mais c'est quand même une victoire. Là, maintenant, les Pays-Bas, on verra. Ce qui est sûr, c'est que ça va conditionner beaucoup de choses pour la suite de cette saison, et que ce changement pourrait bien intervenir ce week-end. Sinon, il faudra à un moment ou à un autre y passer, parce qu'on ne voit pas comment on peut terminer la saison comme ça.
Oui, et puis ça lancera un petit peu la guerre des petites phrases aussi, parce que ce nouveau moteur frais, eh bien, Lewis Hamilton a rappelé quand même que même sur le moteur numéro 3 de Verstappen, il avait dit, ils ont fait des progrès cette année en termes de motorisation, puissance et souplesse. Et l'année dernière, il ne faisait pas des départs de Grand Prix aussi bons et des premiers tours aussi bons. Voilà. Donc, ça risque encore de nous rajouter quelques épisodes à la polémique.
Exactement. On va attaquer le cas Mercedes, hein, parce que là, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur le clan allemand Mercedes, qui a passé, je le disais, un week-end en terre hostile. Et pourtant, ça va peut-être vous paraître un petit peu à contre-courant pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, mais Mercedes a fait finalement un bon week-end en mode limitation des dégâts face à un Verstappen et une Red Bull qui semblaient irrésistibles, mais on s'en est finalement pas si mal sorti. D'abord, Stéphane, on voulait commencer pour féliciter Mercedes, et c'est vraiment pas ironique du tout, sur le comportement de l'équipe allemande dans les stands. Mercedes n'a pas fait obstruction au bon déroulement des ravitaillements et des changements de pneumatiques, oui, pas des ravitaillements, des changements de pneumatiques des Red Bull, en s'écartant à chaque fois, en écartant les tuyaux des pistolets pneumatiques pour laisser la voie libre, en fait, l'accès le plus simple possible à Red Bull. On sait que c'est toujours tentant de gêner un petit peu ses adversaires, Les hommes de Toto Wolff ne l'ont pas fait. Parfois, on souligne des comportements un petit peu
limite.
gênants. Là, ça a été parfaitement sportif.
La FIA avait demandé à ce que tout le monde se comporte bien, que ce ne soit pas la foire dans cette pit lane qui est assez étroite. Et on sait que parfois, il y a un membre d'une équipe adverse qui est un petit peu décalé, qui gêne la vision d'un pilote quand il rentre tout simplement et qui rate
ou
un peu
qui l'oblige à faire une manœuvre.
Exactement. Et là, en fait, Red Bull, Mercedes avait rangé vraiment les tuyaux pneumatiques hein, et Horner a tenu à remercier publiquement Toto Wolff et toute l'équipe Mercedes pour ça après la course. Il a dit, lorsque Max s'est arrêté, il avait une trajectoire absolument parfaite. Les arrêts étaient optimisés de ce point de vue-là. Et ça participait d'ailleurs un petit peu à cette ambiance. Ce Grand Prix s'est bien déroulé. Malgré les craintes aussi dans le public, c'était un petit peu, c'était bon enfant. Il y a eu quelques sifflets, pas trop. Hamilton avait pris soin de s'habiller tout en orange pour la reconnaissance du circuit. Donc, il a amadoué le public.
Il est malin.
Voilà, il y a eu quelques sifflets. Verstappen, on lui avait posé la question à Verstappen, mais est-ce que ça ne va pas siffler un petit peu? Il a dit, mais vous savez, c'est comme dans une équipe de foot, parce qu'il répondait à un questionnaire dans lequel il y avait un supporter du PSV Eindhoven qui l'interrogeait. Il a dit, là, il jouera, c'est comme dans un match de foot, il jouera à l'extérieur, Hamilton, il y aura quelques sifflets. Il a dit, mais est-ce que vous allez faire quelque chose contre ça? Il dit, non, non, pas du tout. Et puis, de toute façon, je ne peux pas les calmer. Voilà. Donc, il avait dit ça comme ça, ils se sont calmés eux-mêmes. C'était quand même assez sympa. Mais en tous les cas, oui, bon esprit pour ce Grand Prix. Et il faut le dire, ce n'était pas évident. Après Silverstone et après l'Hungaroring,
l'attention était
à
montée.
Son comble. Franchement, franchement, oui. Et on a un petit peu moins peur maintenant pour cette fin de championnat.
Exactement. Alors, je le disais, un bon bilan pour Mercedes. Deuxième et troisième pour Hamilton et pour Bottas. On cède quelques points au classement des pilotes. Hamilton passe derrière Verstappen au classement des pilotes, mais pour 3 points à peine. En revanche, Mercedes conforte sa première place au classement des constructeurs, et compte tenu de l'alerte moteur qu'a subi notamment Lewis Hamilton vendredi, c'est un bon résultat. Pendant la course, finalement, Mercedes a été assez agressif, hein. Ils ont tout tenté pour essayer de provoquer quelque chose, mais je le disais, hein, le package Verstappen-Red Bull était tout simplement trop fort. Et d'ailleurs, Mercedes, la cellule stratégie chez Mercedes avait établi une stratégie concernant les pneumatiques très, très élaborée, et ils ont en partie réussi leur tâche, qui était de faire sortir Red Bull de son plan de jeu initial. On a rempli notre mission de ce côté-là, du côté de chez Mercedes.
Sur un circuit étroit comme ça, où ça ne dépasse pas facilement, on aurait pu penser que la norme, c'était un arrêt. Et Mercedes avait tout intérêt à pousser Red Bull à 2 arrêts, puisque sur le troisième relais, donc le dernier, Hamilton avait dans son pack un train de médium, alors que Verstappen avait le choix entre un train de tendre ou de dur. Et Mercedes a tout fait pour essayer de pousser Max Verstappen à l'erreur en passant ce train de pneus tendres à la fin. Et Hamilton a poussé dès le départ, il a durci la cadence. Et en fait, il a poussé Verstappen aussi attaqué pour le garder hors de sa zone de DRS. Et petit à petit, on s'est aperçu très très vite qu'on tendait vers une stratégie à 2 arrêts, ce qui était le cas. Mais Red Bull n'a pas fait d'erreur en termes de choix de pneus en passant un dur pour finir. C'est vrai qu'il fallait faire 32 tours. Avec des durs, ça passait sans problème. Avec des médiums aussi, des tendres, ce n'était pas du tout garanti. Mercedes a battu vraiment tous ses jokers. Mais finalement, rétrospectivement, on peut se dire deux choses. C'est que malheureusement, pour la deuxième course consécutive, ça s'est joué finalement en qualification. Hamilton a été battu pour 38 millièmes samedi. S'il était parti en tête, il aurait peut-être pu rester en tête. Moi, je pense que ça aurait été sur un autre circuit ce week-end. Verstappen aurait aussi gagné en partant de la pole position. La Red Bull est un petit peu plus forte. Et puis, Hamilton, il a aussi payé cet incident moteur du vendredi, un incident hydraulique. Ce qui fait qu'il n'a pas pu faire de relais et donc de tester la résistance des pneus. Il s'est appuyé sur Bottas et Verstappen a dit qu'il n'avait peut-être pas toutes les données en main pour réussir une bonne course. Alors, une pique indirecte peut-être à Bottas aussi. Et donc, il y avait eu un incident sur un comportement anormal du système hydraulique, avait noté l'équipe, qui a envoyé en fait ce moteur en, en inspection à Brixworth en Angleterre parce qu'ils ne savent pas si ce moteur sera réutilisable et ça risque de compliquer un petit peu la fin de saison de Lewis Hamilton.
Oui, c'est la deuxième partie hein, de cette partie d'émission consacrée à Mercedes où bah justement il y a le revers de la médaille, cette alerte moteur. Voilà, le moteur il est reparti à l'usine, ils vont l'analyser, savoir s'il est réutilisable parce que s'il n'est pas réutilisable, on va se retrouver dans une configuration qui risque d'être proche finalement de la problématique de Red Bull, à savoir qu'il reste encore beaucoup de Grands Prix et que à un moment il faudra probablement engager de nouveau un autre groupe motopropulseur. À faire attention donc du côté de Mercedes sur ce point-là.
Oui, tout à fait. Alors, on précise bien qu'en fait, à ce stade de la saison, les pilotes roulent avec un ancien moteur le vendredi, qui est réservé aux essais. Il était avec son moteur numéro 1. Et ce moteur numéro 1, il avait fait les 5 premiers Grands Prix de la saison. Et puis, Mercedes avait installé le moteur numéro 2 à Bakou, et qui avait roulé jusqu'en Hongrie. Donc, il avait fait 6 courses. Et puis, le moteur numéro 3 avait été mis en service à Spa-Francorchamps. Et là, ça nécessitait en fait de faire la fin de saison avec 11 Grands Prix avec un seul moteur, ce qui n'était pas vraiment raisonnable. Donc, le plan jusqu'à présent pour Mercedes, c'était de faire rouler Hamilton avec le moteur numéro 1 et puis de pousser avec le moteur numéro 2 et d'essayer d'équilibrer au fur et à mesure avec le moteur numéro 3 les kilométrages, puisque ce moteur numéro 3 s'était fait surtout pour les circuits rapides qui demandent beaucoup de puissance. Donc, un moteur neuf, c'est toujours un avantage. Un moteur neuf, il peut avoir 2 ou 3 chevaux en plus. Et souviens-toi, on avait invité Simon Pagenaud après les 500 miles d'Indianapolis. Il a dit, même moi, quand j'ai un cheval de plus dans mon moteur, je le sens. Donc, ça fait vraiment la diff. Et après, le plan, c'était de remettre certainement le moteur numéro 2 en service, à voir, tout en roulant avec le moteur numéro 1. Mais si le moteur numéro 1 n'est plus à la disposition de Lewis Hamilton le vendredi, Hamilton va devoir faire toutes les sessions vendredi, samedi, dimanche de la fin d'année avec...
Deux
moteurs, c'est ça, tout à fait. Alors, je rappelle quand même que je pense les 2 et 3, puisque c'était le moteur numéro 2 qui était en cause pour Hamilton.
Il faut être concentré hein, quand même oui. Dans toute cette histoire.
Ouais, voilà, tout à fait. Sachant qu'un moteur fait 45 tours le vendredi, 30 tours le samedi et 70 pour ce qui était de Zandvoort le dimanche. Donc, ça risque de poser quand même un problème.
Alors, ça, c'est la première chose que va devoir gérer, surveiller, mais ça dépendra évidemment des résultats de l'analyse du moteur de Lewis Hamilton. Il faudra aussi réussir, Stéphane, la fin de saison avec Valtteri Bottas, puisqu'on a appris ce lundi, on a eu la confirmation, hein, ça se savait depuis des semaines, voire des mois, que Valtteri Bottas quitterait l'équipe Mercedes. Il va donc rejoindre Alfa Romeo en lieu et place de Kimi Raikkonen. Et on a vu quand même un Valtteri Bottas marquer un petit peu son mécontentement en fin de course. On lui fait faire un nouveau passage au stand, gomme neuve. Hop, et on lui dit on ne va pas chercher le meilleur tour en course parce que c'était Hamilton qui le détenait. Et on rappelle qu'il y a un point attribué à l'auteur du meilleur tour en course. Et il a pris quand même un malin plaisir à réaliser ce meilleur tour en course, même s'il a relâché dans le dernier secteur. Hamilton a dû à son tour repasser au stand, prendre des pneus neufs et aller chercher à son tour le meilleur tour en course. Bon, il a montré un petit peu sa capacité de nuire à Valtteri Bottas. C'est une façon de montrer qu'il n'était pas tout à fait content. Là, on sent qu'il y a des notions de loyauté là, entre le Finlandais et son employeur.
Ah ben complètement. Et là, je pense que Bottas n'est plus entièrement loyal par rapport à Hamilton et Mercedes. Il n'a pas non plus opposé une résistance farouche à Verstappen quand il était en tête, quand il était sur un arrêt long. Et il a laissé passer assez facilement, en fait.
Ça, pour moi, c'est plutôt à son honneur, si tu veux mon avis personnel.
Oui, mais son job, c'était un petit peu de... c'est pas de faire l'obstruction, parce que Toto Wolff a dit dans l'esprit, c'était pas non plus de bloquer pendant 2 tours, mais de résister un peu. Ce qu'il n'a pas fait exactement, et c'est pas la première fois de la saison qu'il le fait. Je te rappelle quand même, Gilles, qu'à Montmélo, alors que Hamilton remontait sur Verstappen, donc on ne savait pas si il allait finir par le dépasser, Bottas avait mis quand même un tour pour se laisser dépasser par Hamilton. Il avait dit non, moi je m'en fiche, je fais ma course. Là déjà, c'était un peu chaud, si tu veux. Hein, pour.
Et c'était que le 4e Grand Prix de la saison. Hein,
exactement, et je me demande même si déjà à l'époque, il ne savait pas qu'il allait être remercié. Mais là, surtout, dimanche, on le met sur un arrêt, ce qui est aberrant de toute façon, et on le fait rentrer à la fin, on lui met des gommes tendres. Et puis là, ils sautent sur l'occasion pour faire le meilleur tour en course. Enfin là, ils l'ont fait, ils ont fait la stratégie à l'envers sur la voiture de Bottas.
Ouais, je pense que c'était une façon de leur rendre la monnaie de leur pièce.
Oui, tout à fait. Mais il fallait tenter ça de toute façon, ce joker, jouer à deux contre un. Autrement, on n'a rien à faire en Formule 1 si on n'utilise pas les atouts qu'on a sous la main. Donc, il a fait ça. Voilà, maintenant, il a signé chez Alfa Romeo. Alors, il remplacera Kimi Räikkönen l'an prochain. Il ne va pas remporter de Grand Prix, je pense, Bottas. Et ça sonne un petit peu aussi la fin d'une ère, je pense, en Formule 1, l'ère des Finlandais volants qui ont remporté des Grands Prix de façon ininterrompue quasiment depuis les années Häkkinen. Il y a eu Räikkönen après, il y a eu une toute petite parenthèse Kovalainen qui remportait un Grand Prix. Et puis Räikkönen a gagné jusqu'en 2018. Et puis il y a eu Bottas de 2017 à 2020 l'année dernière. Et on va tourner une page quand même, ça sera assez particulier.
Exactement. C'est pas terminé hein, pour Bottas parce que on le critique souvent, mais on l'a dit aussi. C'est un très très bon pilote. Évidemment, il était comparé à Lewis Hamilton, qui statistiquement est le meilleur pilote de tous les temps en Formule 1. Donc la comparaison était difficile à vivre. On verra ce que ça donnera l'année prochaine pour George Russell, puisque donc lundi officialisation de Bottas chez Alfa Romeo, et ce mardi on a appris donc l'arrivée de George Russell chez Mercedes. Là aussi on le savait, mais ça y est, c'est fait, on aura deux Britanniques côte à côte, j'allais dire face à face, on sait pas trop, on va voir. Bon, Lewis Hamilton avait quand même bien poussé pour que ce soit pas George Russell, et ben c'est George Russell
qui a dit qu'il estimait Hamilton comme qu'il le voyait comme le meilleur pilote de tous les temps. Donc déjà ça, c'est une forme de respect qu'il a. Il a dit autre chose, il arrive avec une certaine humilité, ou plutôt il revient, parce qu'il avait fait un Grand Prix l'année dernière, en fin de saison, il l'avait remplacé. Il a dit qu'il ne faisait pas d'illusions sur la courbe de progression extrêmement raide qu'il allait devoir suivre pour se mettre au niveau de Lewis Hamilton. Voilà. Et Wolff a quand même dit aussi que son recrutement n'avait pas été une décision facile à prendre et spontanée qui tombait sous l'évidence. Donc je pense qu'il sera encore en période un petit peu probatoire, George Russell, l'an prochain. Et je dirais aussi qu'il y aura une pression médiatique, il découvrira ce que c'est, puisque quand il fera une erreur du type de celle qu'il avait commise à Imola en 2020, en sortant, en tapant un mur sous régime de voiture de sécurité, ben là, chez Mercedes, ça sera, l'écho sera multiplié par 100 ou par 1000 dans les médias, et là, il découvrira vraiment ce que c'est. Il ne dira pas « je me pointe au Grand Prix suivant, on passe à autre chose, tout le monde a oublié ». Là, on lui remettra ça sur le tapis sans arrêt et ça sera un motif de pression supplémentaire pour lui.
Ah, c'est la grosse différence hein, quand on roule dans un top team et quand on roule dans une équipe un petit peu moins en vue. On verra du coup à qui revient aussi ce baquet chez Williams. C'est avec les progrès faits par l'équipe de Jos Capito, ça va commencer à être un baquet un peu plus intéressant que ces dernières saisons.
C'est un baquet assez sexy. Il y a deux pilotes qui se le disputent. Nyck de Vries, champion du monde de Formule E, et Alexander Albon, qui est poussé par Red Bull. Toto Wolff a dit déjà qu'il ne voulait pas d'un pilote Red Bull sous contrat chez Williams. Donc, il faudrait qu'il casse son contrat pour aller chez Williams. Mais pour aller chez Williams, il faut que Red Bull paye. Donc là, c'est la quadrature du cercle.
Ça s'appelle logique, de la négociation.
Voilà, mais la logique, ce serait Albon chez Alfa Romeo et puis Nyck de Vries qui resterait dans l'univers Mercedes pour passer chez Williams. Mais apparemment, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Bon, à voir, ça ne serait pas logique, mais qu'est-ce qui est logique finalement en Formule 1?
Ah, exactement. Ça, c'est un sujet dont on reparlera avant la fin de la saison. On attaque la troisième partie de notre podcast Les Fous du Volant pour aborder l'annonce de la retraite de Kimi Räikkönen qui, après 19 saisons en Formule 1, raccrochera donc au soir du dernier Grand Prix 2021 définitivement son casque et ses gants, en tout cas dans une Formule 1, champion du monde en 2007. 6 fois sur le podium hein, au total au championnat du monde. C'est la retraite d'un pilote pas comme les autres, un monument de glace. Et pour en parler avec nous, nous recevons Jackie Eckhart, ingénieur de renommée évidemment en Formule 1, qu'on est honoré de recevoir dans les Fous du Volant. Et vous avez été, Jackie, le tout premier ingénieur de course de Kimi Räikkönen à son arrivée en Formule 1 chez Sauber en 2001. Merci beaucoup d'être avec nous. Je récapitulais là, si on regarde les chiffres, ça donne le tournis quand même hein, pour Kimi Räikkönen. Donc, il se retire à 41 ans, 344 Grands Prix, champion du monde 2007, 21 victoires, une de plus que son compatriote Mika Häkkinen, 103 podiums, ils ne sont que 5 hein, à être au-delà des 100 podiums en Formule 1, 18 pole positions et 1865 points marqués. C'est le quatrième plus haut total dans l'histoire de la Formule 1. C'est vraiment un monument, Kimi Räikkönen. Est-ce que vous avez senti qu'il avait quelque chose de particulier quand vous l'avez rencontré?
Oui, certainement, certainement. Bah, d'abord, peut-être l'histoire, comment il est arrivé en F1, parce qu'en fait, en 2000, l'année 2000, on avait chez Sauber Ferrari, on avait deux pilotes qui étaient Mika Salo et Pedro Diniz. Pedro, il voulait rentrer au Brésil, donc il voulait arrêter. Et Mika Salo, il avait un volant en fer par Toyota qui entrait en Formule 1 à cette époque-là, trois fois plus haut que nous, on lui payait. Donc, Peter m'avait dit, bon, c'est un peu cher, tout ça, il faut trouver un nouveau pilote. Bon, deux nouveaux pilotes. Et donc, Peter avait contacté Nick Heidfeld, qui en fait avait une très belle carrière déjà. Il avait gagné la F3, il avait gagné la F2. Enfin, à l'époque, c'était la F3000. Il avait fait une seule saison en Formule 1 chez l'écurie Prost, mais qui était un peu en déclin déjà. Et donc, il signe Nick Heidfeld. Alors, il fallait encore un autre pilote. Et moi, j'avais dit à Peter, je dis, écoute, moi, j'ai suivi dès le début en karting Jenson Button. C'est un pilote fabuleux. Moi, je pense qu'il faut prendre le risque. Ah oui, allez, c'est une bonne idée. Contacte ses managers, machin, tout ça. Donc, je fais ça. Mais donc, parce qu'en fait, je savais que Button, il était chez Williams dans l'année 2000. Mais je savais que Frank avait signé un contrat avec le pilote là, qui était en IndyCar à l'époque. Et donc, en fait, je savais que Button, c'était pour une seule année. Et donc, en fait, je contacte les managers, les Robertson, et ils disaient, oui, hein, tu arrives trop tard parce qu'en fait, Jenson a signé avec Briatore chez Renault. Mais il dit, j'ai encore un autre pilote, machin, tout ça, mais il est encore très jeune en termes de sport automobile, c'est Kimi Räikkönen. Je dis, ah bon? Il dit, tu le connais? Je dis, ouais, je connais parce qu'en fait, je me renseigne toujours chez les managers des équipes de karting professionnels parce qu'eux, ils connaissent les pilotes beaucoup mieux que nous. Oui. Parce qu'en fait, il rencontre les pilotes quand ils ont 12, 13, 14 ans. Il n'y a pas encore de manager, il n'y a pas encore d'avocat, machin, tout ça. Donc, ils connaissent vraiment comment ils sont, quoi. Ils savent pas seulement s'ils sont vite, mais ils savent aussi s'ils sont durs, quoi, s'ils ont le caractère de gagner. Et donc, en karting, déjà, m'avait dit, Räikkönen, c'est un futur champion qui mérite la F1. Donc, j'en parle à Peter Sauber, ouais, machin, tout ça. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, ben, écoute, il a fait une seule saison en sport automobile, c'est pas beaucoup. Mais bon, si tu me donnes 3-4 000 km pendant l'hiver, je veux bien le former et puis on verra bien. Donc, on décide, enfin, Peter décide de le faire un essai au Mugello et c'est comme ça que tout a démarré, en fait.
Et ça avait créé d'ailleurs une sorte de polémique quand même, parce que la seule saison qu'il avait fait, c'était donc en Formule Renault 2 litres, me semble-t-il, en Grande-Bretagne. Et Stéphane, il y a eu quand même une sorte de défiance à l'arrivée de Kimi Räikkönen. Tout le monde a dit, enfin tout le monde, non mais énormément de personnes ont dit non, c'est trop jeune, c'est trop dangereux. Il a fallu vraiment insister. Ça s'est pas fait tout seul.
Alors il y avait beaucoup de monde. Il y avait surtout une personne qui s'appelait Max Mosley, le président de la FIA, qui dit non, moi pour moi ça va pas le faire et c'est pas dans le règlement de toute façon. Et Peter Sauber a poussé pour avoir une dérogation en fait pour Kimi. Et Peter Sauber a appelé les team managers un à un. Il a fait une plaidoirie en commission de Formule 1 devant 24 personnes qui étaient des représentants des teams impliqués à l'époque en Formule 1, le promoteur du championnat du monde, les manufacturiers de pneumatiques, pour accepter en fait une super licence probatoire qui a été accordée pour 4 Grands Prix. Ouais. Et il fallait quand même recueillir 80% des votes au cours de cette commission auprès de ces 24 personnes pour que Kimi Räikkönen fasse de la Formule 1. Donc, ce n'était pas gagné du tout, quoi. Donc, grosse entreprise de lobbying et qui a bien fonctionné. Et là, Kimi avait son baquet pour 4 Grands Prix simplement et un contrat quand même de 3 ans plus une année en option. Donc, Peter Sauber avait quand même eu le nez creux sur ce coup-là.
Comment ça s'est passé, les premiers contacts, Jackie, avec Kimi Räikkönen? Tout de suite, vous sentez quelqu'un de particulier? On disait qu'il avait déjà beaucoup de confiance en lui.
Oui, certainement, parce qu'en fait, les premiers essais qu'on a fait au Mugello avec lui, Ben, je suis allé le chercher à l'aéroport parce qu'il n'avait pas encore l'âge pour prendre une voiture de location. Donc, parce qu'il fallait avoir, je ne sais pas, 20 ou 21 ans.
Ouais, je crois que c'est 21.
Donc, je suis allé le chercher. Et puis, au début, je lui ai expliqué comment était la voiture, un peu comment fonctionnaient les datas, parce qu'ils sortaient d'une saison de Formule Renault. Ils ont des datas aussi, mais ce n'est pas pareil. Quoi. C'est beaucoup moins complexe quand qu'une F1. Et je lui avais dit, écoute, physiquement, le Mugello, c'est hyper dur. Il y a beaucoup de force centrifuge dans les virages rapides, comme les arrêts à bataille et tout ça. Donc, tu vas souffrir beaucoup. Donc, je dis, les premiers jours, on va faire des runs très courts. On va faire des runs de 5 tours. Un tour de sortie, 3 tours chrono, un tour de rentrée. Et après, on entend minimum une demi-heure. On garde un peu les datas. Et puis, premier jour, on va faire 50 tours, 10 sorties de 5 tours. Et ouais, c'est bon. Enfin, et puis, premier jour arrive, ils montent dans la voiture et tout ça. Et je lui demande, est-ce que tu es nerveux? Et il me regarde comme ça avec ses grands yeux bleus, dit nerveux. Il dit, pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme une Formule 1. Comme. Ouais, mon frère, dit, je rêve toute ma vie de conduire ça. Mais non, c'est le jour, je ne vais pas être nerveux, je vais en profiter. Je dis, ouais, c'est bon, très bon. Il était très cool, quoi. Et en fait, au début, j'avais réglé la voiture sous vireuse, bien sûr, parce qu'il faisait tête à queue en vitesse. Et déjà, après les deux premières runs de 5 tours, donc après 10 tours, il m'a demandé, dit Jackie, ça se vire quand même beaucoup trop. Hein. Il dit, tu ne peux pas régler un peu plus vers le neutral parce que ça m'emmerde quand même, je perds trop de temps dans les virages.
Il avait un style de pilotage particulier, Kimi Räikkönen.
Bah, disons, particulier, oui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait un très bon feeling avec la voiture. Donc, en fait, après quelques sorties déjà, il commençait à freiner quasiment aussi tard que les pilotes confirmés, quoi. Donc, il n'avait vraiment pas peur de chercher la limite. Mais il me disait aussi, c'est vrai, si tu m'as dit, c'est beaucoup plus vite qu'une Formule 1, je m'en doute, oui. Il dit, il faut que j'adapte un peu le cerveau, il dit, parce que tout arrive tellement vite sur moi. Et c'est vrai que quand on arrive sur, le premier virage en Mugello avec une Formule 1, on arrive à 180 à l'heure, avec une Formule 1, on arrive à 320. C'est pas pareil, quoi.
Donc, c'est la même chose.
Et en plus, on freine plus tard qu'avec une Formule 1, vu la filière dynamique et les pneus. Donc, il m'a dit, ouais, il faut que je m'adapte un peu, mais je vais y arriver, dit, t'inquiète pas. OK.
Mais alors… Bon. Avec lui, vous y allez quand même graduellement parce que je crois qu'il y a un moment, il y a un membre de l'équipe qui lui demande « Mais est-ce que Kimi, tu peux aller un petit peu plus vite ?» Il dit « Oui, vous me dites quand, je le ferai. » Ça, c'est vraiment l'assurance en fait, qu'il en a encore en réserve. Et d'ailleurs, rétrospectivement, Peter Sauber dira « On connaît les jeunes pilotes, on sait ce qu'ils valent après quelques jours d'essai. » Mais là, Kimi était différent et contrairement à d'autres jeunes pilotes, en fait, on avait le sentiment qu'il n'avait pas de limite.
Ouais, c'est vrai. On sentait qu'il avait une marge de progression. Il le disait lui-même, mais il dit « je prends mon temps pour apprendre ». Il dit « je ne veux pas sortir de la piste et abîmer la voiture et perdre ma journée d'essai ». Donc, il dit « je prends mon temps, je prends à certains endroits de la piste un peu de réserve ». Mais finalement, il était quand même vite. Hein.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que il y a Michael Schumacher dans le coin, au Mugello, pendant ces essais-là, et il a déjà compris ce qui se passait avec Kimi Räikkönen.
Ouais, en effet. Et même pendant la journée, comme on faisait la première journée que tous les demi-heures ou tous les heures, une sortie de 5 tours, on avait le temps entre deux sorties de 5 tours, disons, et donc on regardait un peu les datas. Et à certains moments, il me demande, ouais, est-ce que je peux aller regarder dans les virages que font les autres? Je dis, ouais, c'est bon. Donc, il montait voir dans les virages comment passer Michael Schumacher et tout ça. Et c'est vrai que donc le soir, après la séance d'essai, donc on est en train de débriefer dans le motorhome. Et puis, il est rentré à l'hôtel, je pense, vers 8-9 heures. Et vers 10-11 heures, il y avait quelqu'un qui frappait à la porte du motorhome. C'était Michael Schumacher. Il me dit, Jackie, je peux te demander, c'est qui le pilote là qui fait rouler aujourd'hui? Je lui explique, c'est Kimi Räikkönen. Il a fait une saison en Formule Renault, enfin bon, il est très rapide en karting et tout ça. Il dit, ouais, écoute, celui-là, il va aller très, 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 très vite. Ça, c'est une bonne chose quand Michael dit ça.
Les grands champions, ils se reconnaissent entre eux, ils se
Ouais, c'est sûr. C'est
Alors,
sûr.
il y a une autre facette de son personnage qui était très étonnante, c'est qu'il a un détachement extraordinaire. Et un quart d'heure avant l'ouverture de la pit lane lors du premier Grand Prix à
À
Melbourne, le premier
Melbourne.
Grand Prix de la saison, il faut aller le chercher parce qu'il dort.
Ouais,
Comment ça
c'est
s'est
vrai.
passé, ça?
Bah, écoutez, c'était en fait à peu près un quart d'heure, 10 minutes avant l'ouverture du pit lane. Donc, il fallait mettre les voitures en grille. Donc, c'est à lui de mettre sa voiture en grille, bien sûr. Bah, on ne le trouvait pas. Je lui ai dit, mais il est où? Et tout le monde le cherche, machin, je ne trouve pas. Alors, finalement, je vais dans le motorhome et je le trouve. Il était en train de dormir, quoi. Alors, je l'ai réveillé. Je dis, Kimi, il faut mettre la voiture en grille. Ah, ouais, c'est bon. J'arrive. Je suis là dans 5 minutes. Il était très calme, très posé, pas nerveux pour son premier Grand Prix. Très relax, sûr de lui.
Et il a fait 6 hein, pour son premier Grand Prix, ce qui était quand
Ouais.
même une énorme performance. Hein.
Bah oui, il a en qualif, il était 13e. Et en course, il finit en fait 7 sur la piste. Mais comme Olivier Panis, qui était, je pense, 5 ou 6, 5 ou 4, il avait dépassé Nick Hadfield sur les drapeaux jaunes. Donc, il a reçu une pénalité de 20 secondes. Et donc, du coup, Kimi était 6. Parce qu'en fait, j'avais dit à Kimi, je dis, même si en course, tu n'es pas dans les points, tu t'en fous, tu attaques jusqu'au dernier tour. Parce que pour nous, c'est important, parce qu'après la course, on démonte toute la voiture, on regarde l'usure des pièces, éventuellement ce qui aurait pu casser pendant la course. Et donc, c'est important, parce que si tu roules une seconde moins vite que la voiture peut le faire, il n'y a rien qui casse. Mais si tu attaques à fond, la voiture devient un peu plus fragile. Et donc, pour le futur, c'est important d'attaquer jusqu'à la fin. Et donc, ce qu'il y allait faire, et pour là, puisqu'il avait attaqué jusqu'au dernier tour, même s'il n'était que septième, à l'époque, avec les points pour les 6 premiers. Hein.
Ouais.
Donc, il finit septième et il finit, je ne sais pas quoi, à 17 secondes de Panis. Mais, comme Panis a eu une pénalité de 20 secondes, donc il était sixième. Donc, premier point pour son premier Grand Prix, ce qui était quand même pas mal.
Et quelques heures après, parce que ça s'est passé en quelques minutes, la disqualification de Panis, mais une fois qu'il a acquis sa sixième place, vous l'appelez ou un personnel de chez Sauber et en lui disant Panis a été disqualifié, t'es sixième, et Kimi dit OK, merci, et il raccroche. Pour lui, c'est tout à fait normal. Enfin, c'était assez succinct.
Ouais, il m'a dit, quand je lui ai dit, Kimi, donc finalement, tu es classé sixième, hein, tu marques un point pour ton premier Grand Prix, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a répondu laconiquement, another five to beat, c'est tout ce qu'il m'a dit. C'est tout.
Et
Bon, bah, c'est bien. En gros, il dit il en reste 5 à aller
ouais,
chercher, quoi.
voilà, c'est tout.
Et ce qui est quand même assez génial aussi, c'est que ces résultats-là, qui étaient exceptionnels les saisons précédentes pour Sauber, deviennent un standard.
Ouais. Non, c'est vrai, il a été dès le début très performant. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça aussi qu'il a été repris la saison 2002 par McLaren. Et pas Nick Hadfield, qui espérait normalement, parce qu'il était pilote Mercedes quand même,
Ouais.
de prendre cette place-là que Hakkinen a laissé libre, quoi.
Il y a presque une notion de regret là dans votre façon de signaler ça. Vous auriez aimé le garder encore un petit peu au chaud chez
Oui,
Sauber?
c'est-à-dire certainement pas, c'est un pilote exceptionnel, mais bon, on l'avait signé pour 3 ans. Et donc, quand Lawn Tennis s'est intéressé à lui et Mercedes, Peter m'avait dit, hors de question, Kimi reste chez nous. Je dis, écoute, Peter, je dis, c'est toi le patron, c'est toi qui décides. Je dis, mais quand un pilote comme Kimi, qui est tellement, comment dire, affamé de la victoire, s'il peut rouler l'année prochaine avec une voiture qui est plus vite, il va vouloir rouler avec une voiture plus vite. Ça, c'est clair. Si, écoute, au lieu de le retenir parce qu'on le peut légalement, ce que je ferais moi plutôt, c'est de négocier avec Mercedes une belle récompensation financière.
Et ça,
Et
c'est
c'est ce qu'on
toujours
a
un
fait.
argument que Peter Sauber entendait.
Alors, à
On est monté
l'époque.
dans notre avion, on est allé à Stuttgart, on a eu une réunion là avec. À l'époque, c'était Norbert Rauch et. Enfin, le PDG de Mercedes qui était venu à Stuttgart parce qu'ils ont sur l'aéroport des salles de conférence qui leur appartiennent pour faire des réunions directes à l'aéroport. Et donc, on a négocié un très beau package.
Il y a prescription maintenant, ça tournait autour de 40 millions d'euros à peu près. Enfin, c'était une somme colossale pour l'époque pour un contrat pour un jeune pilote.
Oui, exactement. Ouais. Mais donc, cela, Peter Sauber, un homme que j'apprécie beaucoup, il n'a pas mis ça dans sa poche, mais on a construit la soufflerie de Sauber avec ça.
Ah, génial.
Ça, c'est très bien.
On avait choisi de s'intéresser essentiellement au début de la carrière, au moment où vous étiez au plus près de Kimi, parce que cela, s'il fallait faire 19 saisons, et on pourrait faire des heures.
Il y a Monaco aussi, juste coupe Gilles, pardonne-moi.
Vas-y.
À Monaco, alors, Kimi, à l'époque, il n'y avait pas de simulateur, mais il ne s'intéressait pas non plus aux jeux vidéo pour apprendre les circuits, on va dire, il faisait ça, mais vraiment in situ, quoi. Et il fait un tour de reconnaissance du circuit la veille des premiers essais, donc qui était le jeudi. Mmh. Et le jeudi, quand il monte dans sa voiture, qu'il va pour faire son premier tour, il vous demande est-ce que le tunnel se prend à fond ? C'est bien ça ?
Exactement. Ouais.
C'est extraordinaire, ça. Et donc, vous lui dites bah oui, Kimi, ça se prend à fond. Et je notais à l'époque ce qui se passe. Il fait son premier tour vraiment lent, prudent. Le deuxième tour, rapide. Et le troisième tour, il pousse un petit peu plus, mais il reste quand même à une distance raisonnable des rails. Et ouais, ça fait P4 tout de suite. Alors là, bon, bah, tout est dit, là, encore une fois.
Exactement. Il avait la facilité d'apprendre un nouveau circuit, enfin, nouveau pour lui, parce qu'il n'a jamais fait de la F3 ou autre chose. Donc, il n'a jamais roulé à Monaco d'apprendre un circuit en les 3-4 tours. Il était à fond, quoi. Parce qu'en fait, le seul tour qu'il a fait à Monaco, c'était avec moi, comme j'habitais déjà Monaco à l'époque, à l'arrière sur mon scooter. On a fait le tour du circuit, mais en pleine circulation, tout ça, le mercredi. Et j'ai même eu de la police locale l'autorisation de faire la place du casino en scooter, parce que ce n'est pas autorisé pour les scooters. Mais donc, comme j'avais Kimi sur la voiture, on dit, allez, c'est bon pour une fois, bah, vas-y. Et donc, on a fait le tour du circuit quelques fois en scooter et c'était son seul expérience de Monaco, quoi, en fait.
Je disais, hein, on pourrait en faire des heures. Quand il va chercher ce titre dans des conditions absolument incroyables en 2007, c'est quoi votre sentiment à ce moment-là? Vous vous dites, bon, bah, j'ai un petit peu participé à…
Oui, un peu peut-être, mais bon, il le méritait largement parce qu'en fait, il aurait dû être champion du monde plusieurs fois. Parce qu'en 2007, c'était déjà avec Ferrari, mais à l'époque de McLaren…
Il est passé tout près.
Il est passé tout près, il est trois fois vice-champion du monde quand même. Hein. Mm. Et c'est surtout dû au manque de fiabilité de la voiture. Parce qu'à l'époque, le moteur Mercedes était hyper fragile, il a cassé beaucoup, beaucoup de moteurs en roulant en tête. Et donc, en fait, il aurait pu être peut-être deux, trois, quatre fois champion du monde facilement. Donc, pour moi, c'était ouf. Il le mérite depuis des années déjà. Finalement, il est et je suis content pour lui, quoi. Ça, c'est sûr.
Chez McLaren, il avait la réputation quand même de casser beaucoup de moteurs Mercedes. Est-ce qu'il était rude avec les mécaniques, aussi rude qu'on l'a dit?
Non, moi, je ne trouve pas spécialement. Non. Il était plutôt rude avec le châssis, quoi. En fait, c'est quelqu'un qui, dans les chicanes, coupait les vibreurs plus que les autres, quoi. Ça, c'est sûr, ouais. Mais bon, il ne sortait pas de la piste, les chronos étaient là, donc on ne dit rien. Hein. Si la voiture ne tient pas, il faut la renforcer, c'est tout.
C'est ça. Ah ouais. C'est l'ingénieur qui parle, là.
Bah oui, c'est la perfo qui compte.
Mais à part ça, alors Gilles citait ses chiffres dans sa carrière, ce qu'il y a sur son CV aujourd'hui. Je crois que c'était 18 pole positions. Je trouve finalement, j'ai toujours trouvé ça un petit peu faible par rapport à toutes les années chez McLaren qu'il a faites, chez Ferrari. Est-ce comme si finalement le tour qualif, c'était pas son truc, sa spécialité même, mais c'était plutôt le dimanche? Quelle était votre perception de ce point de vue-là?
Ben, je suis un peu d'accord avec toi, Stéphane. C'est Kimi, c'était plus un racer qu'un qualifeur, disons. En qualif, il n'était pas vraiment le plus vite, mais en course, il était vraiment très, très vite. Même la première saison en 2001, Nick Hadfield m'a dit. J'ai jamais vu un pilote aussi vite sur des pneus usés. Donc, quand les pneus dégradent et la voiture devient difficile à contrôler parce que la balance n'est plus là, tout ça, il dit qu'il est extrêmement rapide sur des vieux pneus. Et c'est vrai. C'est vraiment...
ouais. Alors, puisqu'on en est aux anecdotes aussi, je ne résiste pas à l'évocation du Grand Prix Monaco 2012. Il est chez Lotus, il vient d'arriver après deux saisons hors de la Formule 1. Il fait un premier tour le jeudi à Monaco. Il rentre, Et puis il me dit, changez-moi cette direction assistée, je ne ferai pas de tour si vous ne la changez pas. Grosso modo, c'est ça. Il était aussi très sensible, c'était l'une de ses particularités, à la direction assistée. Et si ça ne lui convenait pas, il descendait de la voiture.
Oui, c'est vrai. Il était hyper sensible à ça. Ouais. Donc le feedback de la direction, pour lui, c'était extrêmement important. Et je comprends, hein, c'est parce qu'en fait, une voiture sans la pilote à travers le volant, c'est plutôt le sous-virage. Et dans les fesses, on sent le sous-virage. C'est ces deux choses-là qui vous indiquent à quelle vitesse vous passez dans les virages, quoi. Et donc, il est hyper sensible à ça et ça devait être vraiment à son goût, sinon, il ne roulait pas.
Alors, j'ai noté une statistique et puis je pense qu'il va falloir qu'on arrête parce que sinon, on va rester 2 heures. Kimi Räikkönen est le seul pilote à avoir gagné avec un V10, avec un V8 et avec un V6 turbo hybride. Dire qu'il a quand même traversé les périodes.
Trois époques, ouais.
Ouais.
C'est vrai. Voilà.
Et puis, ça reste quand même aussi un esprit libre. Il l'a montré aussi en annonçant sa retraite sur les réseaux sociaux. Et en fait, Alfa Romeo n'était pas au courant.
Ça, c'est lui, complètement lui.
Bon, en tout cas, Jackie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous qui avez été le premier ingénieur de course de Kimi Räikkönen, donc en 2001 chez Sauber. Et puis, bon, on va le revoir. Hein. Là, il était absent. Il était absent de ce Grand Prix des Pays-Bas pour cause de Covid, mais on va voir s'il sera déjà à Monza.
À Monza, ouais.
On lui souhaite. Quand même, pour un ancien pilote de la Scuderia Ferrari, on peut imaginer éventuellement, vu que ça sera la dernière fois qu'il a un accueil un petit peu particulier des Tifosi. De toute façon, on le reverra avant la fin de la saison. Mais c'est quand même, voilà, ça sera la dernière question. C'est quand même un des caractères en Formule 1. Souvent, on a des gens un petit peu polis, un petit peu polissés. Lui, c'était quand même brut.
C'est vrai que la F1, enfin, dans mon époque, disons, des années 80, début 90 jusqu'à 2010, 2012, j'ai arrêté, je pense, c'est devenu un peu corporate, hein, avec tout l'argent qui est en jeu, des sponsors, des grandes sociétés. Les pilotes, des fois, on leur dit en avance qu'ils peuvent dire à la presse qu'ils ne peuvent pas dire, et Kimi, toujours, il s'en foutait. Il disait ce qu'il pensait et basta. Voilà.
Il reste célèbre aussi pour ses conversations radio. Est-ce que dans sa première saison, il osait quand même aussi un petit peu vous mettre en boîte, on va dire que ça comme ça? Ou c'est venu après?
La première saison, avec moi, ça a été, mais moi, je ne parle qu'aux pilotes quand je pense qu'il est nécessaire. Sinon, je ne fais pas. Donc, parce que je sais que la concentration d'un pilote, c'est quand même hyper important. Et chaque fois qu'on leur parle, on perturbe la concentration. Donc moi, c'était mon principe. Je dis que quelque chose quand c'est vraiment nécessaire. Mais je ne vais pas leur dire des choses qu'il fait beau, qu'il y a un pilote qui a 20 secondes derrière, tout ça. Bon, il y a certaines informations qui sont sur le pit board. Et le reste, je lui en parle que si vraiment c'est nécessaire. Donc, avec moi, ça a été, mais il y a des ingénieurs qui ont cette façon de travailler, qui parlent tout le temps à leur pilote, et certainement Kimi n'aime pas ça. Hein.
Ah non, on a
laissé tranquille.
Le message radio qui restera dans toutes les mémoires, laissez-moi tranquille, je sais ce que je dois faire.
Voilà. Exactement.
On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Jackie Eklard, d'avoir été avec nous. On était ravis de vous accueillir dans les Fous du Volant.
C'est mon plaisir. À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Bon, c'est toujours un régal hein, quand on a affaire à des ingénieurs comme ça qui ont vraiment connu en coulisses. Puis là, en plus, de quel pilote parle-t-on, quoi, de Kimi Räikkönen, vraiment énorme. Une dernière information, hein, Stéphane, qui a quelques heures à peine au moment où on enregistre ces Fous du Volant. L'officialisation de Pierre Gasly et de Yuki Tsunoda pour 2022 chez AlphaTauri, c'était dans les tuyaux. Voilà, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus.
Il reporte ses espoirs sur 2023, sachant qu'il est sous contrat encore Red Bull jusqu'en 2023. Donc, on risque d'en parler de la même façon l'an prochain. Je ne sais pas, j'ai peur. Enfin, j'espère que non.
Je pense qu'on en parlera différemment. Mais c'est à la fois un souhait et en même temps une sensation. On va donner les rendez-vous du prochain week-end, hein, parce que ça y est, c'est le troisième week-end de ce triple header, là, trois week-ends consécutifs avec des Grands Prix. Bon, sauf qu'aux Pays-Bas, on n'a pas vraiment, en Belgique, on n'a pas eu vraiment de Grands Prix. Donc, Grand Prix d'Italie, à Monza, s'il vous plaît. On parlait de Pierre Gasly, évidemment. On va avoir quelques souvenirs en revoyant les images de ce tracé. Et puis alors, le retour du format testé à Silverstone, hein, avec donc les essais libres le vendredi en début d'après-midi, 14h30. Et puis, qualif, hop, tout de suite, le vendredi, 18h. Samedi, course de qualification, enfin, qualification sprint, s'il vous plaît, à 16h30. Et puis, la course le dimanche. Voilà, on repart sur un week-end mené tambour battant. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas, notez-nous et éventuellement donnez-nous 5 étoiles, ça nous fera plaisir. Et puis comme ça, abonnez-vous aussi et comme ça, eh bien, vous recevrez le prochain épisode des Fous du Volant directement sur votre smartphone. Stéphane, je pense qu'on a tout dit. On va faire une énième tentative pour être synchrone sur notre petit gimmick pour se quitter. On a tout dit et maintenant... On
coupe le volant.
Coupe le contact, magnifique.
Coupe le contact.
Quoi. Un jour, on va y arriver. Mais c'est un peu comme les fous du volant. J'y arrive bien.
J'espère qu'on les coupera pas, les fous du volant.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.